Le 13 août 1960, la République centrafricaine accédait à l'indépendance. 61 ans au compteur, le pays est désormais libre, libre de toute sa souveraineté. Le père fondateur de Centrafrique, Barthélemy Bouganda, a mené une lutte politique pour l'accord de cette indépendance le 28 août 1958. En sa qualité du président du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française, AIF, M. Bouganda a donc prononcé un discours réclamant au général de Gaulle l'indépendance du peuple de l'Afrique centrale, dont fait partie son pays, la République centrafricaine.
Au nom de cette foule enthousiaste qui vous acclame depuis 24 heures, au nom des quatre territoires de l'AIF et de leur population, et à mon nom propre, j'adresse au président du Conseil de gouvernement de la République le souhait de bienvenue dans la capitale de la Fédération haïtienne. Nous sommes convaincus que vous êtes venus aujourd'hui pour assurer l'œuvre entreprise à la conférence de Brazzaville et consacrer par un engagement solennel une AIF en marche vers son indépendance. Parlez, Monsieur le Président, parlez sans équivoque. Nous répondrons de même le 28 septembre. Vive de Gaulle, vive la République.
Un discours qui ne laisse pas indifférent le président français, général de Gaulle, qui répond à ces termes.
On dit, nous avons droit à l'indépendance, mais certainement oui. D'ailleurs, l'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt.
Eh bien, Bouganda ne verra pas l'indépendance pour laquelle il a lutté. Il serait mort le 29 mars 1959 dans un accident d'avion. C'est son cousin David Dacko qui va proclamer l'indépendance. Et nous sommes le 13 août 1960.
La République française vient de reconnaître l'indépendance et la souveraineté internationale de la République centrafricaine. Et pour cela, au nom de mon pays, je tiens à remercier le gouvernement français. La République centrafricaine, accédant à l'indépendance, ne pourra jamais en aucun cas s'écarter de la République française, car nos tribus ont perdu leurs traditions, leurs mœurs. Nos pays ont été reconstruits à l'image de l'Occident. Ce serait pour nous une mission difficile que de rétablir dans notre pays, en République centrafricaine, les vieilles traditions africaines. Puisque nous sommes appelés à bâtir au cœur de l'Afrique une nation à l'image de la France, nous avons donc tenu à conserver plus solides encore les premiers liens que nos parents et nous-mêmes avaient déjà liés avec la France.
L'hymne national, la Renaissance, le drapeau constitué de cinq couleurs et la devise Unité, Dignité, Travail sont les symboles de la République centrafricaine légués aux Centrafricains par le père fondateur Barthélemy Bouganda. 61 ans jour pour jour, que sont devenus les Centrafricains? Sont-ils vraiment unis? Sont-ils dignes? Est-ce qu'ils travaillent comme il se doit? Voilà tant de préoccupations qui vont nous guider dans ces discussions démocratiques d'une heure du temps sur Radio Ndekeluka. Et pour en débattre, je reçois autour de cette table du studio B du Radio Ndekeluka Monsieur Martin Ziguele, bonjour.
Bonjour.
Député de Bokaranga 3, président du MLPC, Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain, et ancien Premier ministre. Monsieur Ndui Yabela, bonjour.
Bonjour.
Alexis, bien sûr. Docteur en droit constitutionnel, ancien à l'université et proche du pouvoir dans ce débat. Armando Ngendi, c'est bien moi. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Merci à tout le monde. Je rappelle que nous avons invité M. Evariste Ngamana, porte-parole du mouvement qui réunit du président de la République et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais il ne s'est pas rendu disponible pour ce débat. Peut-être il va nous rejoindre au cours de ce débat. Et M. Bengo Boussin aussi, président du Front, hein, du Front Zokwezo, qui devrait nous rejoindre. Peut-être au cours de ce débat. Ouvrons le débat avec cette première question à tous. Hein, et 61 a passé. Est-ce que les Centrafricains sont aujourd'hui unis, M. Martin Ziguele?
Je vous remercie. Je voudrais d'abord souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tous nos compatriotes et à toutes les personnes qui ont choisi notre pays, la République centrafricaine, comme leur terre de travail ou leur terre de séjour ou leur terre d'accueil. Et c'était l'idéal de Bouganda de faire de ce pays-là le pays pilote en Afrique centrale et le pays unificateur. Donc je souhaite bonne fête de l'indépendance à tous. Je souhaite également à mes frères qui sont autour de cette table, au professeur Ndouyabela, mes voeux de bonne fête de nouvel an à vous aussi. Est-ce que 60 ans après l'indépendance, nous sommes unis? Oui, je pense. Je pense d'une certaine façon, nous sommes unis. Nous sommes unis parce que j'ai la nette certitude que la conscience d'appartenir à une nation se développe. Et les crises ont joué au-delà de la destruction des vies humaines, des biens et des avenirs. Au-delà de la crise, en périphérie de la crise ou à la faveur de la crise, il y a un sentiment d'appartenir à une nation qui naît, on le voit. C'est-à-dire les Centrafricains, quel que soit l'endroit où tu les trouves, et beaucoup plus dans la jeunesse, font beaucoup plus souvent qu'avant référence à la patrie, c'est-à-dire à la nation, c'est-à-dire à la communauté de destin. Et c'est un signe, à mon avis, un signe encourageant. Naturellement, il y a des forces centrifuges qui continuent à travailler sur la base de la division du microcosme ethnique, régional, etc., etc., sur l'appartenance à une communauté beaucoup plus petite. Mais je crois, sauf si je me trompe, je crois que majoritairement, la conscience d'appartenir à une nation et la volonté de s'unir est hégémonique aujourd'hui.
Monsieur Ndouyabela, sur ce point de l'unité, hein, le premier mot clé de la DV centrafricaine, est-ce que les Centrafricains sont unis de nos jours?
J'en profite en retour pour souhaiter très bonne fête de l'indépendance au président Martin Ziguilé, avec qui on a l'habitude d'organiser des débats et puis, sur ce plateau. Je souhaite également bonne fête de l'indépendance à tous les téléspectateurs et tous les téléspectatrices et les auditeurs et auditrices de la radio Ndekeluka. Maintenant, pour en venir à la question que vous me posez, est-ce que les Centrafricains sont unis? Mais juridiquement, il n'y a pas encore eu scission entre de l'État. L'État de la République centrafricaine, juridiquement et constitutionnellement, reste, et pour compléter ce que le président a dit, reste un État unitaire. Un État unitaire, comment et pourquoi? Parce que nous n'avons, pour jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'on apporte preuve contraire, on a un seul gouvernement, un seul parlement, et puis bon, le pouvoir judiciaire dont le siège est ici à Bangui. Donc il n'y a pas plusieurs autorités. Il y a une autorité politique, une autorité judiciaire qui fonctionne en ce moment. Donc les trois pouvoirs ne sont pas encore. Donc on n'est pas, si je le dis, c'est en comparaison sous d'autres cieux. Il y a d'autres communautés séparées qui sont entrées en conflit et qui ont donné lieu à l'éclatement d'un État unitaire en deux. À côté de nous, on va pas donner pour donner un exemple. Vous, à côté de nous, au Soudan. Voilà, il y a une révolution, un mouvement. Ils en sont arrivés à deux États. Pour l'instant, c'est bon. C'est vrai, comme l'a relevé tout à l'heure président Ziguilé, il y a des conflits. Mais nous n'en sommes pas arrivés à nous désunir. Pour l'instant, on reste encore État unitaire. Il y a des conflits. C'est comme on dit, langue cohabite avec dedans. C'est vrai, il y a des difficultés, mais on essaie de résoudre les problèmes du mieux que nous pouvons entre Centrafricains. On n'a pas les mêmes tendances, les mêmes idéologies.
Mais oui, mais sur le plan politique, même si le pays est encore uni, sur toute l'étendue du territoire, les 623 000 km² sont restés intacts, mais dans la pratique, est-ce qu'on voit aujourd'hui les Centrafricains? On peut remonter le niveau. Sur le plan politique, est-ce que les politiques sont unis?
Mais non. En politique, c'est chacun qui défend son idéologie. Partout ailleurs, chaque parti politique a son idéologie, ils ne peuvent pas être unis. Donc chaque parti doit son idéologie. Et donc lorsqu'il est question d'aller solliciter le suffrage universel, chacun part en rang dispersé, avec son programme politique, ne peut pas être uni.
Le MLPC est uni pour l'intérêt du peuple.
Ça c'est différent. Uni pour l'intérêt du peuple, lorsque un problème se pose pour la société, normalement en place de sensibilité, devait amener tous les partis politiques et même les hommes de la société civile à être unis devant un idéal. Lorsque, par exemple, le territoire est menacé par des forces négatives, en principe, au nom de l'unité, tout le monde devait se mobiliser. Est-ce que quand la question est dit sur le plan politique, quand ça le fait? Je vais donner un exemple concret. S'il y a un coup d'État, est-ce que les Centrafricains sont vraiment unis lorsqu'un coup d'État, la RCA est victime d'un coup d'État? Pourtant, la Constitution de la République centrafricaine proclame et dit: lorsque usurpation de pouvoir par un coup d'État, cela constitue une déclaration de guerre au peuple centrafricain. Peuple centrafricain, donc là, il n'y a pas de subdivision.
Effectivement, laissez-moi
terminer. Nous, en tant que détenteurs de la souveraineté, il faudrait qu'on protège notre souveraineté. D'une manière unie, on a dit non. La voie royale pour aller
au palais, bien s'installer au palais de la Renaissance, c'est le vote.
C'est le
suffrage universel.
Et donc tout le monde.
Et c'est comme ça que quand les Français, à l'époque, ils ont fait leur révolution, mais ils n'ont pas pris des, enfin, ils ont pris des armes, ils se sont libérés du joug de l'ancien régime. C'est comme ça qu'ils ont fait la révolution.
Mais déjà, la population elle-même, unie. D'exemple que vous avez pris, sur le coup d'État, par exemple, si ça arrive, mais nous voyons que les Centrafricains ne sont pas unis sur ce point.
Non, les sont pas unis, les Centrafricains sont passifs. Là, ce qu'on dit, on déclare la guerre, c'est bien. C'est constitutionnalisé. C'est la constitution qui dit coup d'État, déclaration de guerre au peuple. Quand on déclare la guerre, on fait comment? On reste passif.
Mais il y en a qui
on doit réagir.
Qui vient soutenir ceux qui viennent au pouvoir.
D'une manière unie, d'une manière unie, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Centrafricains doivent se mobiliser pour dire non, coup d'État, on a déjà élu juridiquement et puis constitutionnellement un président de la République, on ne peut pas venir usurper notre souveraineté de cette manière. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est le droit à l'insurrection populaire. Tout le monde doit se mobiliser, non. Et puis si on marche vers le palais de la République.
Mais est-ce que ça s'est déjà fait une seule fois?
Non, ça ne s'est pas même produit. C'est inscrit même dans certains textes constitutionnels, mais qui doit organiser la révolution? Ce n'est pas le président Zigele. Voilà, il faut prendre la tête, il faut le faire. C'est un peu très compliqué. Et donc, voilà.
Monsieur Zigele, sur la question de l'unité des politiques, sur certains points, l'exemple de coup d'État, par exemple, en 2003, vous avez été victime, vous étiez Premier ministre. Lorsque le coup d'État de 2003 avec François Bozizé vous a chassé au pouvoir, est-ce que les Centrafricains sont unis sur certains points, mais surtout au sein de la classe politique?
Oui, je pense que vous avez posé une question très profonde qu'il faut clarifier. Lorsque le président Barthélemy Bouganda, paix à son âme, avait conçu la République centrafricaine, lorsqu'il l'avait conçue, parce qu'il l'avait conçue pratiquement tout seul, avec ses compagnons à l'époque, les Kangara, les Fayama, il a conçu, il a conceptualisé, je veux dire, la République centrafricaine. Et il voyait la République centrafricaine d'abord comme un pays fédéral, c'est-à-dire le territoire de l'Ubangi-Chari, plus le Congo, qu'on appelait à l'époque le Congo français, c'est-à-dire le Congo, la République du Congo aujourd'hui, Congo-Brazzaville, le Gabon, et le Cameroun et le Tchad. Et puis, il voyait dans un deuxième temps, au-delà de la République centrafricaine, ce qu'il appelait les États-Unis d'Afrique latine, parce qu'il voulait que s'adjoigne à ce bloc le Congo démocratique aujourd'hui, l'Angola, le Burundi et le Rwanda. C'était ça le projet de Barthélemy Bouganda, un projet d'une grande fédération. Et vous allez observer qu'aujourd'hui, ce projet renaît un peu sous la force de la CEAC. C'était déjà avant les années 1959, date de sa mort, le père de notre nation pensait déjà à cela. Et en droite ligne de cette ouverture d'esprit, il avait conçu une République centrafricaine où il y aurait le multipartisme, c'est-à-dire multiplicité d'opinions. Et vous savez que Bouganda était député sous la bannière du Mécène. C'est avec le Mécène qui était son outil de lutte politique. Il était député à l'Assemblée avec d'autres partis politiques. Le Mécène avait écrasé les autres partis, mais il y avait d'autres partis politiques. Donc il a proposé, et c'était pour ça qu'il était allé à Berberati, proposer aux Centrafricains une constitution de la République qui allait venir sur la base du multipartisme, c'est-à-dire de la diversité d'opinions. Malheureusement, je dis bien malheureusement, lorsqu'il était mort prématurément et que nous sommes arrivés à l'indépendance, il y a eu contradiction entre deux hommes. Ça, c'est de l'histoire. Président David Dacko, paix à son âme, et le professeur Abel Goumba, paix à son âme. C'est cette guerre, cette guéguerre, j'allais dire, entre les deux héritiers putatifs, a amené à l'instauration du parti unique, donc à la disparition de l'esprit de la diversité d'opinions. Et lorsque le Mécène est devenu parti unique, le président Bokassa est venu prendre le pouvoir en 1966, pour une part à cause de cette dissension politique et à cause de la pensée unique instaurée par le Mécène, ce qui est pour un parti unique, c'est normal. Nous avons passé une longue nuit. Et ça, les Centrafricains doivent toujours s'en souvenir. Je parle devant un professeur de droit constitutionnel. Nous avons passé une longue nuit dans ce pays pendant près de 20 ans où il n'y avait pas d'institution à part le président de la République. Pas d'assemblée. Même assemblée à parti unique, il n'y en avait pas. Pas de cour constitutionnelle. Pas de... C'est-à-dire, le président de la République, en tant que personne physique, concentrait l'ensemble des pouvoirs de l'État et des institutions de l'État. Et à un certain moment même, il était ministre dans plusieurs domaines. Lorsque vous vous trouvez
vous voulez parler de qui, M. Zigele?
Je veux parler de l'empereur Bokassa. Donc, et c'est et dans donc, la lutte.
Et c'est dans la lutte.
Et donc, c'est le début du déchirement de la justice sociale.
Et je vais arriver à votre question pour qu'il y ait une... Vous savez, il n'y a pas de génération spontanée. Quand quelque chose se produit aujourd'hui, il y a des causes. Il faut avoir le temps de reculer un peu dans l'histoire pour voir pourquoi aujourd'hui l'arbre a poussé. Parce qu'il y a des racines. Et ça a commencé par les racines avant d'arriver aux feuilles. Si vous regardez les feuilles et que vous ne voyez pas où est la racine, vous ne voyez pas bien l'arbre. Donc, cela fait que ailleurs, dans les pays voisins, c'est vrai, le Parti unique a continué. Mais avec des institutions du Parti unique, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle. Et donc, ces populations-là sont habituées à une vie institutionnelle. Et nous, nous n'avons pas vécu cette expérience. L'expérience de la vie institutionnelle, nous l'avons connue vers la fin du régime du président Kolingba, quand il a organisé les premières élections législatives, puis après le multipartisme.
Oui, avec l'élection
Qu'est-ce qu'il en a résulté? Il en a résulté un désintérêt des Centrafricains pour la chose publique. Je ne dis pas la chose politique, la chose publique. Donc, ce que le professeur Mdou Yabel a dit, je suis d'accord. Il est inscrit dans la constitution de la République centrafricaine que prendre le pouvoir par les armes est un crime contre le peuple centrafricain. Mais lorsque moi j'étais Premier ministre et qu'il y a eu cette rébellion que vous évoquiez et qu'il y a eu prise de pouvoir par la force, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que même le gouvernement qui a suivi notre renversement était animé par des responsables des partis politiques de l'opposition de l'époque. C'est-à-dire que nous sommes tellement entrés lui, il a parlé de passivité. Mais moi, je parlerai de confusion. Nous sommes entrés dans une telle confusion que ceux qui professaient la démocratie, le multipartisme et la conscience politique ouverte se sont retrouvés alliés à quelqu'un qui a renversé l'État, le pouvoir de l'État, élu démocratiquement, et a mis sous berne la Constitution. Et donc, lorsque ce genre de choses arrive dans un pays, tout le monde pense que c'est possible. Et c'est ce qui explique à un second degré la passivité de la population. C'est quand il y a des événements de ce genre, les gens disent « Ah non, non, c'est un tiers d'outil politique là-bas, il y a peu. » Mais pourtant, il s'agit de la construction de l'État sur la base de la diversité d'opinion parce que le pouvoir appartient au peuple.
Oui, M. Ndou Yabel. Oui.
Non, non, c'est bon, c'est ce qu'il a dit, c'est tout à fait important. Et donc, il faudra mettre aussi en exergue l'individualisme des Centrafricains. Parce qu'il y en a qui pensent, et comme on l'a dit tout à l'heure à propos du Togo, tout cela, si le feu Bartomeu Bokanda a créé la République Centrafricaine, et à la clé, il devait impulser un processus de développement à travers les cinq verbes. Mm-hmm. Il devait faire en sorte que chaque Centrafricain conjugue les cinq verbes de Bokanda. Et pour arriver en sorte que chaque Centrafricain conjugue, c'est tout un processus. Ça ne se fait pas en un laps de temps. Et donc, c'est à la faveur des élections que les présidents qui vont accéder au palais de la naissance devaient progressivement assurer, permettre et demander à chaque Centrafricain, donc faciliter la conjugaison des cinq verbes de Bartomeu Bokanda. Or, enfin, c'est selon ma propre vision et puis ma propre analyse, certains pensent qu'ils sont peut-être l'alpha et l'oméga du développement. En dehors de moi, si je ne suis pas président de la République, aucun développement ne peut se réaliser. Donc si on s'inscrit dans cette perspective, et vous voyez, on va retomber chaque année, tout le temps, coup d'État, rébellion, parce que bon, on estime, si je ne suis pas au pouvoir, automatiquement, le développement ne se fera pas. Et donc, il faut qu'on s'inscrive et qu'on se dise.
Et c'est ça qui provoque le déchirement de l'unité.
Le déchirement de l'unité, exactement. Et donc, quand on cultive l'égoïsme à outrance, vraiment, ça cultive l'unité ne s'installe pas. Oui, alors là, qu'on ne répond pas à la préoccupation. Alors, c'est une belle devise que le feu Bartomeu Bokanda nous a légué, être unis. Si les Centrafricains vraiment étaient unis, depuis, je pense que nous, on n'aurait pas de...
Je reste avec vous, M. Ndou Yabel, avec cette question nationale, ou certaines questions nationales, par exemple l'embargo sur les armes à destination du pays, l'insécurité persistante et autres. Pourquoi les Centrafricains ne s'attendent pas sur ces questions qui concernent la vie de la nation? Sinon, en principe, on ne pouvait pas continuer à observer l'embargo. Sinon, les Al-Qassim, les Mahamat, les autres chefs rebelles étrangers qui viennent s'installer dans le pays il y a de cela plusieurs années, mais bon, est-ce que les Centrafricains sont unis pour parler de cette question qui concerne leur vie?
Mais non, les Centrafricains, en fait, à propos de ça, ils sont tous unanimes. Je parle sous le regard de l'honorable député à l'Assemblée nationale.
Ah bon?
Le président, à l'époque, avait lancé un cri d'alarme du tribune de l'Assemblée nationale, le président sortant de l'Assemblée, un cri d'alarme pour la levée immédiate de l'embargo. Tous les Centrafricains sont soucieux du fait que, et là, récemment, les jeunes Centrafricains se sont retrouvés au niveau de point zéro pour manifester leur mécontentement. Le maintien de l'embargo tue avec des, sur les banderoles, on lisait. Puis ça a été publié sur les réseaux sociaux. Maintien l'embargo, tue le peuple, tue encourage certains, etc. Donc il y avait des slogans comme ça pour montrer que...
Mais il y a un certain nombre de leaders qui devraient prendre le devant pour parler de cet embargo, la lever, discuter. Parce que parler de la population dans son ensemble pour réclamer l'embargo, mais il faut une action des leaders.
Oui, mais
il faudrait que ces leaders soient unis.
On peut relever, passivité de relever, mais c'est affaire, vous voyez, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a décidé de lever, enfin, d'interdiction des armes à destination de l'armée de la République centrafricaine. Donc ça date de 2013. Bon, c'est tout un long processus. Quand on dit qu'on devait faire le lobbying autour, mais en dehors, hein, si on a été un peu passif au niveau de la République centrafricaine, mais en dehors de nous, il y a certains dirigeants, hein, des pays amis, qui ont conduit une mobilisation forte pour demander, parce que c'est une affaire au niveau du Conseil de sécurité, ce sont les États qui se retrouvent là-bas, ce ne sont pas les individus. Mais sur le territoire, je crois savoir que la société civile, quelques représentants de partis politiques ont élevé le ton pour dire qu'il faut. Parce que l'État, ben, tout État au monde doit disposer du monopole de la violence légitime. Si on n'a pas le monopole de la violence légitime, comment on peut restaurer la paix et la sécurité sur un territoire?
Monsieur Ziguele, sur la même question de l'unité des leaders, je reviens toujours, je ne parle pas de la population lambda, mais de leaders politiques sur certaines questions qui concernent la vie de la nation. Par exemple, l'insécurité à l'intérieur du pays, avec la présence des hommes armés étrangers ici dans le pays.
Je commence par la question de l'embargo. Je pense que s'il y a un sujet sur lequel, je ne dirais pas qu'il y a consensus, mais unanimité des Centrafricains, c'est bien la levée de l'embargo. Mais il faut encore rappeler pour l'histoire que l'embargo a été imposé à la République centrafricaine à la demande
des Centrafricains.
Des Centrafricains, du gouvernement centrafricain en 2013. Il faut toujours souligner ça. Et qu'est-ce que le gouvernement centrafricain avait avancé comme argument ? C'était la destruction des sites militaires, des camps militaires, des armureries et du fait que, avec la présence des groupes armés, on ne pouvait pas contrôler la circulation des armes et que cela constituait un danger pour la population. C'est le gouvernement centrafricain qui a avancé cet argument. Et dans le processus de la levée de l'embargo, nous, députés de la 6e législature, comme le rappelle le professeur, lorsque M. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, était de passage à Bangui, nous l'avons convié à l'Assemblée nationale et devant toute la représentation internationale accréditée auprès de notre pays, devant tout l'hémicycle, hein, en séance solennelle, nous avons délivré une déclaration pour demander au Conseil de sécurité des Nations Unies la levée sur l'embargo. Et les arguments que nous avions avancés et qui demeurent d'actualité, c'est le fait que les frontières de la République centrafricaine échappe au contrôle de la MINUSCA. Le contrôle des frontières n'entre pas dans le mandat de la MINUSCA. Et par conséquent, ces frontières-là étaient poreuses. Et nous sommes entourés, comme vous le savez, par des États qui sont actuellement également face à des groupes armés ou bien qui ont des problèmes de sécurité intérieure. Et que les groupes armés se ravitaillaient vraiment comme ils voulaient. Mais par contre, l'État, qui a l'obligation de regarder autour de ses frontières, n'a pas les moyens de le faire et est interdit d'avoir accès à un certain type d'armes. Qu'est-ce qui nous a été répondu ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, mais personne ne fait attention à cela. Ils nous ont dit, vous avez dit qu'on a détruit les camps militaires. Est-ce que vous avez reconstruit les camps militaires ? Vous avez dit, on a détruit les armureries. Est-ce que vous avez reconstruit les armureries ? Vous avez dit, on n'a pas... Parce que par exemple, pour les casernes, c'est pour éviter que les militaires se retrouvent dans les quartiers ou à dos de moto, avec des kalachnikovs,
avec des armes et tout.
Voilà.
Parmi la population.
Est-ce que vous avez un fichier central de recensement des armes pour qu'on ait la traçabilité sur les armes qui circulent sur le terrain ? Il faut que ces dispositifs techniques et administratifs soient accomplis et qu'on les contrôle avant que nous puissions lever l'embargo. Mais entre-temps, on met en place des procédures d'exemption. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez besoin d'un type d'armement et que cela est justifié, on va vous livrer des armes.
Si on parle de l'allègement.
Et voilà, de l'allègement circonstanciel de l'embargo. Et le gouvernement centrafricain a répondu en mettant en place une loi de programmation militaire. Mais le problème, c'est que la loi de programmation militaire, son financement n'est pas acquis. Et je ne veux pas entrer dans les détails, mais quand nous avons reçu la loi de programmation militaire et que nous l'avons votée, au sein du même gouvernement, les départements en charge des finances ne semblaient pas être au courant de cette loi de programmation militaire. Et en plus, la communauté internationale, les gens qui nous accompagnent dans le financement de ces actions-là, ne semblaient pas non plus être au courant. Donc, ça pose des problèmes.
Ça pose des problèmes, mais voilà. Déjà dans, le, dans l'organisation. Non, est-ce que, oui, rapidement, pour gagner du temps, M. Ziguele, oui. Lorsque, par exemple, vous, au niveau de l'opposition démocratique, si vous constatez que le gouvernement, avec toutes les exigences du Conseil de sécurité des Nations Unies, par exemple, construire des casernes et autres, si le gouvernement fait un pas, est-ce que la classe politique de l'opposition ne peut pas aussi faire un plaidoyer pour son compte, pour cette situation?
Mais nous faisons des plaidoyers. Lorsque je vous parle du plaidoyer qui a été fait devant Guterres, c'est l'ensemble des députés, hein, toutes tendances confondues. C'est l'ensemble des députés de la nation. Je vous dis, je vous ai dit en séance solennelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de MCU, de MLPC, de KNK, de RDC, etc. C'était les députés de la République centrafricaine, les députés centrafricains, représentants du peuple centrafricain face au Conseil, aux représentants des Nations Unies. Donc les choses sont claires. Et nous ne faisons que ça. Nous ne faisons que ça. Même dernièrement, quand le Conseil de sécurité a décidé de reconduire l'embargo, moi, à titre personnel, je me suis exprimé sur la question devant le Conseil économique et social il y a moins d'une semaine. Et j'ai posé le problème des conditions que nous devons remplir par rapport à l'embargo. Cette question est liée aux questions de la question du financement du fonctionnement de l'État. Pour dire les choses simplement, il faut que vous ayez de l'argent pour entamer un processus de réforme et qui aboutisse à bon terme. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais reconstruire une armée, ça coûte extrêmement cher. Ça fait 2-3 fois les recettes annuelles du budget de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'assurer des financements. En plus du financement interne, que nous souhaitons le plus élevé possible, parce que c'est la condition de la pérennité du processus, il faut aussi des concours extérieurs. Et pour les concours extérieurs, cela relève donc de la politique du gouvernement. C'est-à-dire maintenir des liens avec ceux qui peuvent nous aider à financer, en plus de nos efforts, le processus de réforme de l'armée. C'est ça le problème de l'embargo. Bon, comme j'ai beaucoup parlé, je
veux on gagne du temps, on va boucler la partie de l'unité. Je vous donne 30 secondes.
Par rapport aux groupes armés, vous avez cité Al-Khatim, les rebelles, etc. Mais je ne fais que ça. Je suis allé à Khartoum parce que je crois à la paix et je suis pour la paix. C'est pour ça que je suis allé à Khartoum. C'est pour ça que j'ai toujours défendu l'accord
de paix. Et ça, vous parlez de votre cas, mais pas pour les autres.
Non. Et lorsque j'ai commencé à vivre dans ma chair les dérapages, parce que je suis tombé dans une embuscade de 3 heures à Bokaraga, et quand j'en ai parlé, c'est à peine si on ne me moquait pas, on ne me riait pas au nez. On pensait que j'affabulais, je faisais de la publicité pour moi-même. Mais qu'est-ce qui s'est révélé par la suite? Il s'est révélé par la suite que ces acteurs, les chefs de ces groupes armés, qui sont des étrangers, n'avaient aucune intention de travailler pour la paix en Centrafrique. C'est ce qui nous a rattrapés aujourd'hui. Donc, vous me posez la question, mais moi, je suis en avance sur le discours officiel par rapport à cela.
Vous êtes en avance. Nous allons boucler rapidement cette partie. On continue, si vous voulez, mais je reviens vers vous, monsieur Duyabela, sur la dignité maintenant des Centrafricains. On a fini avec l'unité. On va parler de la dignité. La dignité, peut-on encore parler de la dignité du peuple centrafricain de nos jours?
Ça, c'est notre conseil qu'on a développé. Je voulais rapidement revenir sur la situation que le président
évolue.
C'est-à-dire que là, il faut considérer comme il a fait un rappel historique. Lorsque le président a accédé au pouvoir, il y avait seulement 342 militaires en poste et au moins 40 kalachnikovs. C'est ce qui ressort des documents que nous recevons. Or, de 2016 à maintenant, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'un effort a été fait avec la contribution des partenaires internationaux. Le UTM, la Fédération de Russie et certains partenaires bilatéraux, ils ont contribué à la formation des militaires. On en est aujourd'hui du point de vue effectif, sans parler de construction, de réhabilitation de certaines. Construction 4000 hommes, normalement, tous ces éléments techniques devaient quand même permettre au Conseil de sécurité de lever totalement la marée. Mais malheureusement, tout le monde a été...
Oui, malheureusement. Alors, maintenant, parlons de la dignité, des peuples centrafricains. Est-ce qu'on voit un centrafricain aujourd'hui, au regard de la situation, on peut dire qu'il est digne de nos jours?
Ça, c'est un concept psychologique et philosophique au regard de quoi? À partir de quels critères on peut dire que le centrafricain est digne? Mais le centrafricain est digne s'il peut, au jour d'aujourd'hui, arriver à conjuguer les 5 verbes du Bataille Bokanda. Si un centrafricain lambda, au jour d'aujourd'hui, ne vit qu'avec moins $1 par jour, est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est digne de vivre? Si on ne peut pas prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le repas, est-ce que c'est digne d'être? Parce que là, accéder à selon la définition universelle, un niveau de vie suffisant, la dignité, ça veut dire qu'il faut arriver à conjuguer les 5 verbes du Bataille Bokanda. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, avec l'état de notre société, est-ce qu'on peut dire tout centrafricain vit dignement de fruits, de ses labeurs?
Non, lorsqu'on parle de la dignité, il faut des étrangers pour réconcilier les centrafricains, des étrangers pour trancher leurs problèmes. Est-ce que là, la dignité du centrafricain est au beau fixe?
C'est dit dans la Bible, monsieur le journaliste, lorsqu'il y a un problème, il faut aller entre tête à tête les frères ou discuter.
Mais pas répéter. Hein,
et donc, si ça ne marche pas, il faut recourir aussi à d'autres compétences pour venir régler nos problèmes. Donc, on ne peut pas dire le fait de faire intervenir certaines personnalités ou des étrangers pour
plusieurs résoudre fois.
Plusieurs fois, mais aussi longtemps que possible pour nous amener à nous réconcilier. C'est, moi, je ne vois pas le côté négatif, on doit reprocher cela. Aussi longtemps que possible, on a besoin aussi d'autres, puisque nous-mêmes, entre nous. Est-ce que la dignité signifie, si on ne se pardonne pas, ou bien on n'arrive pas à se comprendre dans la République africaine, c'est absence de dignité? Je crois que la dignité, c'est un concept assez vaste et qu'il faudra très bien cerner, sinon on risque de partir dans tous les sens.
Monsieur Martin Seguele, des détournements, des deniers publics par certains dignitaires du pays, des actes de torture que certains porteurs de tenue infligent aux centrafricains ou bien des rebelles sur le terrain. Est-ce qu'on peut parler de la dignité du centrafricain?
Je voudrais d'abord revenir sur la, à peu près à la même question que vous avez posée à mon frère, le professeur Louis Béabéla. Dans l'esprit de Boganda, la dignité, c'est de faire en sorte que le centrafricain puisse conjuguer les cinq verbes du Messane, c'est-à-dire se nourrir correctement. La question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que les centrafricains se nourrissent normalement? Quand on sait par ailleurs que la Banque mondiale a dit, lors de la publication de son cahier économique pour 2021, que le taux de pauvreté dans notre pays est passé de 60 à 75%. Ça veut dire concrètement que 3 Centrafricains sur 4 vivent dans la pauvreté. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à se nourrir. Deuxièmement, vêtir. Est-ce que tous les Centrafricains se vêtissent selon les saisons comme ils l'entendent? Loger. Est-ce que le logement en milieu rural et en milieu urbain, est digne du Centrafricain? Parce que les conditions de logement influent directement sur la santé. Soigner. Est-ce que le Centrafricain, tel que l'a conçu Boganda, dans nos villages, dans nos hameaux, dans nos champs, nos abris dans les champs, dans les villes, dans les périphéries des centres urbains, dans les centres urbains, est-ce qu'il se soigne normalement? Et l'éducation. Boganda, vous le savez, était un prêtre, c'est-à-dire il a bénéficié d'un cursus scolaire et universitaire complet. Et dans sa tête, il voulait que la majorité des Centrafricains bénéficient des mêmes privilèges qu'il a vécu. C'est ça qui a fondé le choix du terme dignité dans sa devise. Parce qu'il est prêtre, c'est-à-dire il veut que l'être humain ressemble au Christ, c'est-à-dire jouisse de sa liberté et de son autonomie mentale, spirituelle, soit performant sur le plan intellectuel et tout, et sur le plan physique, sur le plan environnemental, que l'être humain vive dignement. C'est ça le concept de dignité. Maintenant, vous me parlez du traitement qui est fait aux Centrafricains aujourd'hui. Les traitements qui sont faits aux Centrafricains aujourd'hui, à mon avis, ne devrait pas faire l'objet de dichotomie entre le pouvoir exécutif et la population. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui seront dans l'opposition demain. Et ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui seront au pouvoir demain. Prenez l'histoire de la République centrafricaine. Dako a perdu le pouvoir en 66. Bokassa a pris le pouvoir. Il l'a perdu en 69. Dako l'a repris. Il l'a reperdu en 81. Kolingba a pris en 81. Il a perdu en 93. Patassé a pris en 93. Avec moi comme dernier prémisse, nous l'avons perdu en 2003. D'autres sont venus en 2003, ils l'ont perdu en 2013, 2012, 2013, et puis d'autres, etc. C'est que c'est la culture institutionnelle que j'ai évoquée tout à l'heure qui manque aux Centrafricains à cause de notre histoire politique et qui fait que nous ne voyons pas les choses en perspective, c'est-à-dire à moyen et à long terme. Et on est toujours dans l'état d'esprit de dire oui, mais à la soirée Sarabiri, pourquoi il s'arrête? C'est-à-dire, on ne choisit que les exemples négatifs alors qu'on dit qu'on veut construire un état de droit. C'est ça le problème. Dans un état qui a vécu l'histoire politique de la RCA et qui veut aller de l'avant, il doit faire en sorte que les responsables de l'état, et nous tous, et nous tous, nous devons faire en sorte que tout ce qui a été fait de négatif hier ne se reproduise plus.
Et donc, vous rejoignez la question que je vous ai posée tout à l'heure sur les détournements,
oui,
les deniers publics.
Mais, écoutez, voilà. Moi, je suis à l'aise pour vous parler de détournement, de détournement. Quand vous parlez de détournement, il s'agit de quoi? Il s'agit de prendre ce qui vous n'appartient pas. Quand vous prenez ce qui vous n'appartient pas, est-ce que le projet qui a été mis en œuvre atteindra son but? Non. Donc, c'est un crime contre le peuple centrafricain d'abord et contre la construction de notre nation. Donc, il faut que nous poursuivions cela. Et j'étais président de la commission finance. Les institutions de contrôle font beaucoup d'efforts, contrairement à ce que les gens disent et croient dans notre pays. Les institutions de contrôle, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit la Haute Autorité chargée de la Banque de Gouvernance, que ce soit l'Inspection Générale d'État, que ce soit l'Inspection Générale des Finances, que ce soit les autres corps de contrôle sectoriels, ils font beaucoup d'efforts. Mais le problème, c'est la judiciarisation des résultats, des enquêtes qui mettent en lumière des malversations. Ouais. Et ces malversations sont sanctionnées sélectivement.
comme disait La Fontaine, selon que vous soyez fort ou faible, vous payez ou pas. Et c'est ça le problème. Et ça, ça détruit encore
le système
et l'État. Et la notion et la confiance du public et du citoyen envers l'État.
Docteur Alexis, je suis entièrement d'accord avec ce que le président Martin Ziegler vient de développer. Un effort est en train d'être fait, contrairement aux périodes précédentes, pour reddition de la gestion de la chose publique. La haute autorité, la bonne gouvernance, la Cour des comptes, ils font exactement et correctement leur travail. Alors le problème, c'est la finalité. Normalement, et comme le chef de l'État l'a dit, il a placé le second mandat de son quinquennat sous le sceau de l'impunité. Enfin, c'est la machine judiciaire qui devait suivre.
Mais est-ce que là,
il y a beaucoup de rapports. D'ailleurs, les rapports rendus, par exemple, par la haute autorité de la bonne gouvernance, sont publics. Un exemplaire est envoyé au président de la République, un exemplaire au premier ministre, chef de gouvernement. Normalement, le chef de gouvernement devait renvoyer, en tant que chef de gouvernement, lui, renvoie au ministre concerné, la justice. Voilà, s'il y a des gens qui sont inquiétés, automatiquement, le procureur de la République peut se saisir de dossier, convoquer les intéressés, et pour que justice soit faite. C'est de cette manière-là qu'on doit lutter contre ce que vous dites, la corruption, le détournement des deniers publics.
Mais écoutant M. Ziegler tout à l'heure, on parle de la judiciarisation, ça veut dire qu'il faut que la justice soit faite à la fin.
Non, pas la judiciarisation. Moi, je dis que la justice doit jouer son rôle et rendre la justice au nom du peuple centrafricain. Qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement, il a dit. Rendre la justice selon la tête du client, c'est vrai ce qu'il dit, c'est une réalité qui a été décriée. Vous vous souvenez quand même, il y a un centrafricain, lorsque le chef de l'État a pris fonction, a adressé une correspondance, c'était une lettre officielle, c'est paru dans le journal, je crois, Libre ou Le Pugno, je l'ai lu, sur le dysfonctionnement du système judiciaire. On rendait justice, moi je sais, quand j'étais DG de l'ENAM, je me suis fait accompagner d'un magistrat, et qui m'a donné un exemple concret, je ne donne pas son nom. J'en allais faire la campagne de sensibilisation, il m'a dit, écoute mon frère, je suis là. On m'avait invité, ça se passe au niveau de la justice. Dans un système judiciaire, il était là, les magistrats devaient se réunir, les deux parties ont plaidé, et maintenant ils doivent délibérer. Et lui, certains magistrats s'étaient déjà organisés, sous forme d'ethnie, et lui il était tout seul. Il était mis en minorité, donc au moment de délibérer, il m'a dit, voilà, il était question de délibérer, moi j'ai dit, rendre une décision unique. Alors que l'intéressé avait raison, mais il fallait automatiquement le condamner. Donc lui, comme il était tout seul, et puis les autres étaient quatre dans la formation du jugement, ils étaient quatre, ils ont dit, écoute, de toute façon, tu es minoritaire. Alors, si tu es minoritaire, docteur, quelle que soit la décision, et moi-même, ce que je vous dis, j'étais même DG de l'ENAM, on a rendu une décision contrairement à la règle de droit, alors que moi, DG de l'ENAM, grand juriste, j'avais rédigé un arrêté pour le recrutement des fonctionnaires, on y a vu une illégalité. Vous voyez quand même, DG de l'ENAM, doctorat en droit, je peux induire un ministre de la République pour signer un arrêté illégal. C'est allé, je suis moi-même, j'étais allé au niveau du tribunal administratif, convoqué, j'ai répondu, j'ai avancé les arguments de droit, mais on a annulé purement et simplement cet arrêté qui était un arrêté qui n'était pas un arrêté illégal, mais un arrêté illégal.
En vous écoutant, monsieur Duy,
la justice doit faire son travail maintenant, puisque là.
Et donc, seule la justice peut redorer la dignité du peuple.
La dignité, voilà, seule la justice peut redonner confiance, redonner dignité au peuple centrafricain. Un centrafricain lambda ne doit pas se sentir frustré sur ses bonnes raisons devant la justice. Si vous avez droit, c'est... Et donc, rendre justice au nom du peuple centrafricain, pas au nom d'une ethnie, pas au nom d'une corporation, pas au nom de quelque soit, ni au nom de l'exécutif. Je crois que le chef de l'État est même à cheval, c'est pour dire l'impunité zéro, et c'est donner le top aux magistrats de faire leur travail correctement pour que la dignité de centrafricain revienne.
Monsieur Diabila, et le travail?
Le travail?
Le centrafricain, le pêcheur, le jury vient rapidement, le pêcheur au fin fond, à Amdafok, à Ndélé, le centrafricain qui vit, qui fait le petit commerce, est-ce qu'il travaille normalement?
Oui, non, le centrafricain, en fait, si on le développe, cultiver le champ, c'est du travail. Parce qu'il faut réparer.
Mais est-ce qu'il travaille maintenant?
Le champ. Mais non, il y en a qui ont été empêchés par les phénomènes de la crise, etc., qui n'ont pas travaillé. Mais bon, c'est peut-être limité à un espace, donné à un temps déterminé. Mais dans certaines régions, le travail, il y en a qui travaillent, qui utilisent le champ, sans pour autant faire allusion aux fonctionnaires. Les fonctionnaires travaillent. Quand on travaille à la CLI, c'est pour contribuer à répondre à ses besoins, pour la satisfaction des besoins fondamentaux. Donc, ce que Barthélemy Bogonda a dit, ça s'inscrit également dans le vaste programme de droit au développement.
À partir de 11h, à partir de 12h, dans le bureau administratif, vous ne trouverez personne. Certains quittent le bureau avant 15h. Est-ce que le centrafricain aime son travail et il travaille en tant que tel?
Non, mais en plus, là, vous me posez une question. Au sein du ministère, c'est une question de déontologie, de respect qu'on doit... La fonction publique prévoit qu'un fonctionnaire commence à 7h et finit à 15h30, mais un temps de pause est toujours aménagé. Le problème, c'est qu'il y en a qui exagèrent, qui vont au-delà. Ça, c'est individu, il appartient au chef du département. de bien dresser, de bien canaliser son personnel. C'est vrai, il y a un laisser-aller dans les administrations, on voit qu'il y en a qui exagèrent, qui vont même jusqu'au-delà, mais il appartient au chef de département de bien vouloir mettre le point sur les i.
Monsieur Ziguele, j'ai sous mes yeux quelques données de PIB par habitant juste avant l'indépendance et aujourd'hui plus de $600 américains par habitant juste après l'indépendance et aujourd'hui c'est moins de $400 par habitant. Comment analysez-vous le travail, la contribution de chaque Centrafricain à la production de la richesse nationale ?
Je voudrais, avec votre permission, dire un mot sur la justice.
Oui, rapidement, je vous en prie.
Oui, très rapidement. Vous aurez remarqué que le premier mot de la devise du MLPC, mon parti, c'est justice. Mais si on vous dit quelle est la condition pour qu'il y ait un État, il y a un seul mot, la justice. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien la justice est vraiment la colonne vertébrale de l'État et de l'État de droit, comme son nom l'indique. Je parle devant un éminent professeur de droit. C'est vrai que le cheminement vers une justice indépendante est un chemin long et tortueux, parce que le pouvoir politique, c'est comme l'impérialisme. Il cherche toujours à s'étendre, et notamment en instrumentalisant la justice. Je pensais que vous allez nous poser une question d'actualité.
On y reviendra dans un autre débat.
Par rapport aux performances que je constate, hein, vous allez dire plutôt aux contre-performances que je constate, mais puisque vous ne m'avez pas posé la question, je dis tout simplement que la justice, c'est notre problème à nous tous, chaque Centrafricain. C'est comme la qualité du sang qui irrigue notre corps. Si ce sang-là charrie des matières plomb, nous arrivons à un cancer du sang et nous mourrons très rapidement. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas une question de polémique. Lorsque le citoyen se retrouve face à la justice, il se retrouve face à lui-même.
Sa volonté même.
Face à lui-même. Seule la justice peut faire en sorte qu'il continue à être un être humain, c'est-à-dire quelqu'un qui jouit toujours de ses droits, ou à les perdre. Donc c'est comme si quelqu'un se retrouvait face à la mort. C'est très important. Nous n'avons pas le droit de nous amuser avec la justice.
Oui, on y reviendra prochainement.
Maintenant, je reviens au travail.
Oui, au travail maintenant.
Vous avez cité l'exemple de la richesse par tête d'habitant en 1960 qui était de $600 et maintenant $400. Vous rappelez-vous, au début de cette émission, je parlais des difficultés institutionnelles aux politiques de notre pays. Et ces difficultés institutionnelles et politiques ont toujours secoué l'activité économique de notre pays. Il y a des études qui ont été faites par le Fonds monétaire international dans les années 2005-2006, par rapport à la situation de notre pays, la RCA. Il y avait un chef de mission indien qui dirigeait les missions du FMI sur la RCA sur au moins 15 ans. Et il a fait une étude dans laquelle il a démontré, chiffres à l'appui, je vous épargne des chiffres, que chaque fois qu'il y a une tentative de coup d'État ou un coup d'État en Centrafrique ou une mutinerie, nous perdons 7 ans de richesse commune. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez 10 francs et vous perdez 7 francs. Et il ne vous reste que 3 francs. Chaque fois qu'il y a une tentative de coup d'État ou un coup d'État ou une mutinerie. Donc, vous aviez 10 francs, vous vous retrouvez avec 3 francs. Et vous retravaillez. C'est ça exactement l'exemple. Vous retravaillez et vous arrivez encore à 20 francs. Et dès qu'il y a une tentative de coup d'État, une mutinerie ou une rébellion, vous perdez 7 points, c'est-à-dire 14. Et puis, vous revenez cette fois-ci à 6 francs. Donc, vous ne progressez pas. Mais vous reculez. C'est ce que veut dire également le représentant de la Banque mondiale lorsqu'il délivrait, présentait le cahier économique pour 2021. Il a dit que nous avons perdu 22 ans de croissance dans notre pays. C'est pour ça d'ailleurs que le taux de pauvreté est passé de 60 à 75% de la population. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que, comme je l'avais dit tantôt, 3 Centrafricains sur 4 vivent avec moins de 500 francs CFA par jour. Mais c'est contre la dignité que cherchait Bouganda. Mais la responsabilité est une responsabilité collective. Parce que les politiques économiques, pour lutter contre la pauvreté, se stabiliser et se développer, elles se font dans la durée. Et je vais vous donner un seul exemple et je vais m'arrêter là. Il y a des économistes de développement, mais le prix Nobel de l'économie de développement, qui était professeur à Harvard, si je ne me trompe pas, qui était un Indien, disait que pour qu'un pays passe du stade de la pauvreté au stade de l'émergence, c'est-à-dire où tout le monde trouve à manger, tout le monde s'habille, tout le monde peut aller à l'école, tout le monde peut se soigner, tout le monde peut se loger décemment, il faut investir dans l'économie du pays l'équivalent du 25% du PIB pendant 25 ans sans interruption. Si vous prenez le PIB de la RCA, c'est à peu près 1500 milliards de francs CFA. 25% de 1500 milliards, c'est 375 milliards de francs CFA. C'est-à-dire qu'il faut qu'on investisse dans l'économie de notre pays. Et investissement public comme investissement privé.
l'équivalent de 375 milliards de francs CFA sans interruption pendant 25 ans. C'est-à-dire jusqu'à
l'an... Pour espérer une...
Pour espérer sortir la majorité des Centrafricains de la situation de la pauvreté. Lorsque vous prenez le budget 2021 de la République centrafricaine, vous regardez, les investissements sont de 155 milliards. Et sur les 155 milliards, il y en a à peu près 128 ou 127 qui sont assurés par des concours extérieurs. C'est-à-dire, c'est les pays, les partenaires qui nous donnent ça. Nous-mêmes, on met 28 milliards de fonds propres centrafricains pour de l'investissement. Comparer 28 milliards à 375 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement nous sommes pauvres, mais la pauvreté risque de continuer si nous ne travaillons pas pour produire des richesses. Et la première richesse, à mon avis, c'est l'agriculture.
L'agriculture.
La première richesse, à mon avis, c'est l'élevage. La première richesse, à mon avis, c'est la sylviculture. C'est dans ces trois axes-là que nous allons produire des richesses qui, lorsqu'elles seront transformées, permettront à l'État d'avoir des ressources, notamment via la TVA. Parce que ce sont les usines, les grandes entreprises de services qui produisent la TVA.
Mais monsieur Ziguele,
Renforcer le budget, permettre d'investir, même si on n'arrive pas aux 375 milliards, peut-être qu'on peut arriver à 200, à 300 milliards par rapport aux 150 milliards aujourd'hui. Donc, nous sommes un pays qui recule.
Mais il y a un levier qui est l'insécurité. C'est tout ça.
Oui, l'insécurité, c'est la politique. L'insécurité, c'est des décisions politiques qui mettent fin à l'insécurité. C'est-à-dire l'organisation de la sécurité relève des pouvoirs publics.
Monsieur Ndouyabela, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire de nos jours pour vraiment éviter à tout ce développement de Monsieur Ziguele, pour éviter ce que les Centrafricains sont en train de vivre par rapport à l'extrême pauvreté d'ailleurs qui les guette même à l'avenir?
Je crois qu'il faut que le gouvernement se mette au travail. C'est ce que déjà le chef de l'État a commencé à faire depuis qu'il a accédé à l'indépendance. Créer beaucoup de richesses pour le développement de notre pays, pour donner du travail à la population centrafricaine. C'est vrai. Vous voyez donc récemment, pas plus tard que deux jours, il y a beaucoup de difficultés qui empêchent la création de richesses dans les pays centrafricains. Le problème, par exemple, d'électricité. Pendant un certain temps, depuis l'indépendance, on a bénéficié d'un minimum de mégawatts pour permettre aux entreprises de se multiplier, de créer et de fructifier. Pas plus tard que la semaine dernière, je crois que cette semaine, le chef de l'État était à Boali avec le concours des partenaires internationaux. Et depuis cette date, il est allé, il a inauguré une centrale avec la contribution de nos amis chinois. Tout ça là, c'est pourquoi. Donc, j'ai dit le développement, c'est un processus à long terme. On ne peut pas décider de réaliser aujourd'hui. Donc, il y a un pas qui doit être jeté, une première pierre doit être posée, et puis progressivement, les uns et les autres vont suivre. Et donc, pour arriver à ce qu'il a, c'est vrai qu'il a dit, avec en avançant les chiffres, c'est un spécialiste en la matière, le processus est assez long. Et donc, chaque Centrafricain doit être conscient de cette réalité qu'il a décrite et se mettre au travail en commençant par le sommet et les autres suivront.
Monsieur Ndoui, sous votre permission et Monsieur Ziguele, nous allons écouter les avis à présent même des certains Centrafricains, je parle des Centrafricains, des Banguissois, sur la devise de la République Centrafricaine après 61 ans. D'anniversaire.
Non, à l'heure où nous sommes, je crois que c'est presque le paradoxe, hein, parce que la Centrafrique est divisée. Les Centrafricains ne sont plus unis. Le Centrafricain ne travaille pas comme avant. La preuve en est que suite à des crises militaro-politiques que le pays a connues. Donc, en ce qui me concerne personnellement, je dirais que c'est vraiment un paradoxe.
À mon avis, les Centrafricains ne respectent pas cette devise. Pourquoi je dis ça? Prenons le temps d'avant, c'est différent par rapport au moment où nous vivons. Sincèrement, les Centrafricains ne sont pas dignes. Par exemple, un papa ou bien une fille peut s'habiller d'une manière où toi-même tu n'arrives pas à voir comment les culs sont dehors, soit les slips jusqu'à même les garçons portent, tressent les cheveux, tu vois que c'est pas bien quoi.
Oui, par rapport à notre devise, unité, dignité, travail, je pense qu'il y a un grand changement. La dignité de l'homme n'est pas respectée aujourd'hui. Vu que l'homme est tué, il est massacré. Ce qui concerne le travail, je pense qu'il y a une amélioration dans ce sens. Avec le développement technique, le développement industriel, tout ça, nous sommes en train d'émerger dans ce sens-là.
On dit que notre devise, c'est unité, dignité, travail. Mais moi, je ne vois pas travail, je ne vois pas unité, je ne vois pas dignité.
Qui dit l'unité dit association. Qui dit vraiment l'association en trois groupes quoi. C'est-à-dire que le cœur, esprit et âme, ce qui fait que le Centrafricain ne respecte pas, c'est-à-dire que n'aime pas son prochain.
Voilà, c'était donc les avis des Banguissois, je le disais tantôt sur la devise du pays. Messieurs, que faire pour rapisser ou raccommoder le tissu social déchiré, comme on dit certains Centrafricains tout à l'heure?
Oui, non, ils ont raison, je pense que je respecte l'avis des uns et des autres. Hein.
côté. À côté, on dit les musulmans sont d'un côté, non, et puis les chrétiens d'un côté. Non, ça c'est faux. Même les étudiants qui me fréquentent. Donc ils ne sont pas d'un côté et nous également hein, d'un côté. Il y a eu cette friction due aux événements de 2013, mais je crois que progressivement, avec la politique menée par le gouvernement en place de réconciliation nationale, progressivement les choses. Non, ouais. C'est pour dire que bon, si on prend cas par cas, il ne faut pas exagérer et dire que voilà, c'est vrai qu'il y a une situation de crise qui a essayé de tenter de séparer les Centrafricains. Hein, mais maintenant, à l'heure actuelle, je crois qu'un effort a été fait dans ce sens que voilà, cette crise, en fait, cette séparation qui est prophétisée est en train de s'estomper. Alors, maintenant, je pense que c'est le gouvernement en train de s'y atteler. Progressivement, hein, réconciliation nationale, il y a un ministère qui a été dédié à cela. Et donc, progressivement, vous voyez, on va parvenir à réconcilier tous les Centrafricains entre eux-mêmes.
Il y a
la cité en disant, le Centrafricain, il y a plusieurs cas, n'est pas digne, n'est pas digne, quand on ne s'habille pas bien, etc.
On paye la guerre.
Oui, on paye la guerre. Quand
on ne peut pas s'attarder sur ce point,
il y a plusieurs points. La RCA a adhéré à plusieurs conventions internationales. Quand chacun est libre de faire ce qu'il veut, est-ce qu'on doit l'interdire de le faire? Les droits de l'homme, voyez-vous ce qu'on dit, les droits de l'homme, on doit le faire. Et puis s'il n'advenait que le transsexualisme arrivait en République centrafricaine, on va dire, c'est vrai, la dignité, voilà. Mais on va se confronter aussi à la droite, puisque l'article 8 des déclarations auxquelles la RCA a souscrit, dit que voilà, il faut la liberté de jouir de son corps comme on veut. Donc si on condamne ça en disant qu'au nom de la dignité, mais on va se mettre en porte-à-faux bon, avec la déclaration. Voilà.
On ne fera pas cas par cas parce que apparemment vous sélectionnez ce qui vous dérange. Hein.
Non, ça ne me dérange pas. Je dis que c'est des clarifications que j'apporte pour l'éclairage du peuple centrafricain. On nous dit s'habiller. Voilà. Je dis, il y a ce qu'on appelle un phénomène transsexualisme. Il y en a qui arrivent à se...
Tout à l'heure, on parle de l'habillement ou bien de centrafricain. Peut-être celui qui n'a pas d'habit, oui, c'est l'habit est déchiré. Monsieur Ziguele, sur les avis des centrafricains, rapidement.
Oui, je respecte naturellement les avis de nos compatriotes. Ils expriment ce qu'ils vivent, ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils conçoivent. Mais vous savez que le rôle du politique, moi je parle toujours en tant que militant politique, le rôle du politique, c'est de transformer l'impossible en possible. Le rôle de politique, c'est de tracer des chemins pour l'espoir. Nous ne pouvons pas rejeter notre société avec l'eau du bain. Bien sûr que nous avons beaucoup, la balance penche vers ce qui est difficile, vers ce qui est inachevé, vers ce qui est imparfait. Mais quel est le rôle du politique, quel est le rôle du citoyen? C'est de transformer son environnement politique, son environnement économique, son environnement social, son environnement culturel, ses relations avec les uns et les autres. C'est-à-dire dès le moment où j'ai la conscience que je suis centrafricain, ce que je vois en l'autre, ce que je vois en le professeur Ndoui, ce que je vois en vous Armando, ce que je vois en M. Amenegi, c'est d'abord un compatriote, un centrafricain. Quelqu'un qui jouit des mêmes droits et des mêmes devoirs que moi. Sur cette base-là, nous pouvons nous entendre. Mais c'est lorsque vous regardez les particularités. Vous cherchez à savoir il est de quelle région, il est de quelle ethnie. Je ne m'entends qu'avec les gens de ma région. Je ne m'entends qu'avec les gens de mon ethnie. Je ne m'entends qu'avec les gens de ma religion. C'est-à-dire ce qu'on appelle le communautarisme est l'ennemi de la République. La République, c'est la citoyenneté. La République, c'est des devoirs. La République, c'est des droits. Et Bogana ne croyait pas si bien dire en choisissant comme devise de notre pays unité, dignité, travail.
Monsieur Ziguele, si ça vous va, on coupe ici. Et c'est la fin de ce débat politique de ce jour. Il traitait les mots-clés de la devise, comme a dit Monsieur Ziguele, de la République centrafricaine. Unité, dignité, travail. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres tout au long de ces discussions politiques. Monsieur Ndouya Bella, merci à vous.
Merci, monsieur Armando.
Un docteur en droit constitutionnel, enseignant à l'université, proche du pouvoir dans ce débat. Et puis, monsieur Martin Ziguele, merci d'être venu.
Merci, c'est moi qui vous remercie. Je remercie également vos auditeurs et auditrices.
Vous êtes député de Bukaranga 3, président du MLPC et ancien premier ministre. À la partie technique, c'était le service de Guy Rémi Amenendi, Patara, le débat politique. Placé sous la supervision du rédacteur en chef Brice-Lantrine Dangui. Rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Au revoir.